Et le premier pape, ça a été Pierre. Il n'a pas été élu ni choisi par un conclave. Et ensuite, bon, la primauté de l'évêque de Rome, qui est devenu petit à petit le pape, parce que ça correspondait à papa en italien et à un mot grec qui est papos, qui célèbre aussi un vieillard un peu honoré, de grande qualité et tout ça. Ça n'a pas été jamais une décision comme ça qui a été prise très clairement. Ça s'est institué au long des siècles, petit à petit. On a décidé que les cardinaux, et les cardinaux qui étaient au départ des prêtres de paroisse de Rome, c'est eux qui choisissaient l'évêque de Rome. Et comme l'évêque de Rome était finalement le pape, bon, ça s'est institué petit à petit, comme ça, un peu dans le désordre, faut dire, ça n'a pas été simple. Et il y a eu des conclaves au cours des siècles qui ont été très très vifs, parce qu'en plus, les grandes familles italiennes, les Colonna, les Orsini, etc., se disputaient souvent pour avoir le pape. Elles voulaient que le pape soit issu de la famille. Les empereurs et les rois d'Europe jouaient aussi un rôle dans cela. Ils essayaient d'avoir une influence. Et l'empereur d'Autriche, par exemple, a eu longtemps un droit de veto sur l'élection du pape. Mais déjà au temps de Charlemagne, c'est-à-dire vers l'an 800, le pape était quelqu'un de très puissant et de très écouté, d'autant plus qu'il avait des territoires. C'était aussi un chef d'État maintenant. L'État du Vatican, c'est le plus petit État du monde. Mais à l'époque, à différentes époques, jusqu'au 19e siècle, élire le pape, c'était aussi choisir un chef d'État qui avait toutes les caractéristiques d'un chef d'État et tous les pouvoirs d'un chef d'État et tous les moyens d'un chef d'État.
Est-ce que parmi les uns, il y a un conclave qui était plus marquant que les autres?
Ah, je crois que tous les conclaves ont été marquants. Il y a eu un conclave tout à fait étrange à la fin du XIIIe siècle qui a duré à peu près 3 ans, à la suite de quoi on est allé chercher un religieux qui a choisi le nom de Célestin V. On l'a choisi comme pape parce qu'on ne trouvait pas de solution. Les cardinaux n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Et puis au bout de quelques mois, il a démissionné. C'est le seul cas d'ailleurs de démission d'un pape. Il a écrit lui-même les conditions de démission d'un pape. Vous savez pourquoi ils sont à la maison Sainte-Marthe? C'est qu'à la mort de Paul VI, c'était au mois d'août, les cardinaux logeaient dans des cellules tout autour de la chapelle Sixtine. Et ils souffraient de la chaleur, ils étaient serrés les uns contre les autres, parce qu'au début, on n'avait pas prévu qu'il y aurait autant de cardinaux, mais déjà à 7 ans, en 78, il y avait beaucoup de cardinaux. Donc ça a été assez catastrophique sur ce plan. Et je crois que c'est un cardinal italien qui s'appelait Oddi, qui est mort maintenant, qui a dit, écoutez, il faut changer cela absolument, on ne va pas revivre dans les mêmes conditions dans je ne sais pas combien d'années. Eh bien, quelques semaines plus tard, Jean-Paul Ier est mort et ils ont recommencé. Évidemment, on n'avait pas encore fait de travaux pour agrandir la maison Sainte-Marthe. Et donc, ils ont vécu à nouveau dans des conditions, mais terribles, terribles, terribles. Les gens facétieux pourraient dire que ça pousse à élire vite le pape suivant.
Est-ce que vous auriez un mot, quelque chose pour terminer cette entrevue?
Je ne voudrais absolument pas être cardinal aujourd'hui. Je ne voudrais pas prendre une telle responsabilité.